Elle sait qu'elle a eu raison de venir jusqu'ici. Et elle pense, Samuel, ça ne sert à rien la haine, qu'à se faire du mal à soi, tu comprends? Je sais que tu comprends. Et alors qu'elle se redresse et remonte sur le plateau, le temps qu'elle essaie de reprendre son souffle, elle regarde l'arme. Elle sait qu'elle pourrait retourner le pistolet contre elle. Elle sait qu'elle pourrait aussi tirer dans le vide pour que quelqu'un l'entende, que Samuel l'entende. Car elle est quelque part, c'est sûr, il n'est pas loin. Mais non. Elle regarde l'arme avec dégoût comme si c'était à cause d'elle que tout venait d'arriver. Et sans réfléchir, elle avance vers le bord de la falaise. Elle va serrer fort le pistolet qu'elle n'aurait jamais dû accepter et le balancer dans le vide aussi loin qu'elle le pourra. Et il se fracassera contre les pointes osseuses des roches. Il finira dans les ronces, les trous, gorgé d'eau, de boue, de particules de poussière. Il pourrira ici, et c'est ce qui pourra arriver de mieux. Mais elle ne peut pas rester longtemps à le regarder voler dans les airs, sous la pluie, et puis y tomber et glisser d'une roche à l'autre, sans vraiment s'abîmer. Car non, elle reste compacte, l'arme. Elle ne se détruit pas, ne se disloque pas. Elle glisse et disparaît entre les failles, en contrebas. Si Bill alors se retourne, c'est comme si soudain elle se réveillait, qu'elle émergeait d'une sorte de rêve et qu'il fallait se ressaisir. Peut-être parce qu'elle a à peine le temps de se tourner vers le vaste plateau gonflé d'eau maintenant et de constater que Sidious n'est plus là, qu'il est parti. Oui, merde. Elle se met à courir. Elle veut le retrouver. Tout à coup, elle comprend qu'elle doit se protéger. Et le cheval, son cheval, comment va-t-il faire? Elle court et de l'autre côté, elle le voit. Il est redescendu et a repris la saignée qu'ils ont empruntée pour arriver jusqu'ici. Elle l'appelle. Elle crie. Mais le cheval ne s'arrête pas. Il veut descendre. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir trouvé un lieu pour se protéger. Et maintenant le tonnerre cogne et se répercute contre les rochers. Et c'est comme si les glaciers et les montagnes en propageaient la force, l'écho, bien au-delà, le revoyant contre le ciel. Ce ciel bas et noir maintenant. Une masse compacte de nuages ne laissant plus passer aucune trouée, ni même un rayon de soleil. La seule luminosité alors, c'est celle que les éclairs projettent sur les versants des montagnes, sur les plaines, à l'infini. Des lumières comme des explosions qui se réverbèrent sur le plan opaque de la masse nuageuse. Et en quelques minutes seulement, Sibyl ne voit plus rien. C'est comme si elle était incapable de réagir. Elle ne comprend pas qu'il faut redescendre, qu'elle trouve n'importe quel angle de roche pour se mettre à l'abri. La foudre cisaille le ciel, le vent couche la pluie, et bientôt les grêlons mitraillent le sol et le vent les couche pratiquement à l'horizontale. Alors Sibyl s'engouffre à son tour dans la saignée et plonge quasiment en courant. Elle se souvient. Oui, plus bas. Combien faut-il courir? 50, 100 mètres? Peu importe. Il faut courir et aveugler. Incrédule. Elle suffoque sous la violence des rafales de vent et des claques de grêlons. Et enfin elle se réfugie sous un rocher fendu en deux et qui laisse, à sa base, un espace ouvert sous lequel elle peut se glisser et se protéger du vent, de l'agression des grêlons. Elle se courbe comme elle peut. Elle s'enroule sur elle-même en attendant que ça passe. Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est seulement une nuée? Car maintenant Sibyl a peur. Maintenant elle se dit que peut-être ce n'est pas seulement une poche qui vient de s'ouvrir au-dessus d'elle, qui libérerait dans un gros orage la pluie trop longtemps retenue dans le ciel, et qui se dissiperait bientôt, dans quelques minutes. Un orage violent et passager, balayé par le vent. Un orage qui ne tiendrait pas et irait jeter sa colère contre d'autres glaciers, d'autres montagnes. Mais au fond d'elle-même, elle est prise d'une peur qui va jusqu'à la terreur. Non, ça peut durer des heures, peut-être toute la journée. Et dans ce cas, comment elle peut faire? Et lui, Samuel, est-ce qu'il est à l'abri? Est-ce qu'il a eu le temps de se protéger? Et soudain, c'est ça, seulement ça qui la terrorise. Est-ce que Samuel a pu se protéger à temps? Elle est frigorifiée. Elle sent ses doigts qui gèlent. Bientôt, ils seront bleus, engourdis. Chaque mouvement deviendra difficile, douloureux, et sa bouche, ses lèvres se ferment. Son corps, ses muscles se raidissent. Elle est prise de spasmes. Un froid qui la mord jusqu'aux os et dont elle ne peut pas se défaire parce qu'il la paralyse. Si elle ne fait rien, elle risque l'hypothermie. Elle a conscience qu'elle ne peut pas rester sans rien faire. Mais sortir serait encore pire, sauf si, oui, il lui semble soudain que les grêlons ont cessé de tomber. Et si le tonnerre gronde toujours, si les éclairs continuent de zébrer le ciel, peut-être qu'elle doit profiter de ce répit. Et son corps recroquevillé, elle le tient comme ça, les bras autour des jambes, le dos courbé, la nuque, la tête entre les genoux. Son corps ne lui répond presque pas.